Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, pourra-t-on échapper à la surveillance des Smart Cities ? La preuve par l'image, c'était la promesse de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, censée révolutionner le monde du football en abolissant les erreurs de jugement. Quelques mois après sa mise en place, la promesse n'est pas au rendez-vous. Pénalty, pas pénalty, avec ou sans caméra, tout reste une question d'interprétation humaine. Et bien avec la vidéosurveillance, c'est peu ou prou la même chose. Les outils ont beau être de plus en plus sophistiqués, de plus en plus répandus dans l'espace urbain, ils ne sont pas infaillibles. Ainsi, la reconnaissance faciale, présentée comme le nouveau Graal en matière de sécurité, est encore loin de tenir ses promesses, beaucoup d'erreurs, une personne pouvant trop facilement être prise pour une autre. La France n'en est pas là, législation oblige, mais la direction est prise. Lors du dernier carnaval de Nice, la reconnaissance faciale a été testée sur des volontaires. À Saint-Étienne, on s'apprête à expérimenter l'audiosurveillance pour détecter les bruits suspects. Officiellement, il s'agit de simplifier la vie des habitants en leur offrant une plus grande protection, une ville plus sûre, mais au prix du renoncement à l'anonymat, dans la mesure où un tel système suppose de se nourrir de toujours plus de données, notamment de données personnelles. Alors, pourra-t-on échapper à la surveillance des Smart Cities ? Eh bien, c'est la question que je vais poser ce soir à trois invités. Carlos Moreno, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur scientifique de la chaire ETI pour entrepreneuriat, territoire, innovation. Vous êtes un spécialiste des smart cities, les villes intelligentes. Et vous avez fondé il y a quelques années de cela la start-up Synovia. En un mot, en quoi ça consistait? J'en parle au passé parce que vous n'en êtes plus le directeur.
C'était une approche pour développer une plateforme numérique capable de collecter beaucoup de données pour anticiper des situations critiques dans le monde urbain.
Voilà, et qui fonctionne encore aujourd'hui.
Dans beaucoup de lieux.
Pour discuter et débattre avec vous, Régis Châtelier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé d'études prospectives à la CNIL. La CNIL, rappelons-le, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Contributeur de LINC, laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Et vous enseignez la gouvernance de la donnée urbaine à l'école urbaine de Sciences Po. Et puis notre troisième invité, l'étant duplex des studios de France Bleu Picardie à Amiens, il s'agit d'Élodie Lemaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Verne, spécialiste des questions de sécurité et de justice. Et vous venez de publier, c'était il y a quelques jours de cela aux éditions La Découverte, L'œil sécuritaire, mythes et réalités de la vidéosurveillance. C'est une enquête de terrain que vous avez menée auprès de vidéo-opérateurs. Cette enquête de terrain, pour vous, Élodie Lemaire, c'est à vous que je vais poser la première question. Est-ce que c'était une manière peut-être de confronter les fantasmes ou les idées reçues qu'on peut avoir et que vous aviez peut-être vous aussi avec la réalité autour de ce sujet?
Oui, c'était aussi une manière de, peut-être de faire un pas de côté vis-à-vis du débat public qui oppose les partisans et les détracteurs de la vidéosurveillance et puis se polarise beaucoup en fait sur le couple sécurité versus liberté, mais qui charrie finalement à un certain nombre de présupposés qui me semblaient intéressants de mettre à l'épreuve de la réalité empirique.
Voilà, on va avoir l'occasion justement de mettre à l'épreuve ces présupposés dans le cadre de cette émission. Bah, premier présupposé, tiens, c'est avec vous qu'on va examiner, Carlos Moreno. On parle de vidéosurveillance, de surveillance, de smart cities. Smart cities sont des villes intelligentes qui se nourrissent d'énormément de données, qui sont hyper connectées. L'idée, c'est de fluidifier la vie dans la ville, pas seulement en termes de transport, mais de fluidifier aussi les relations humaines. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous diriez, vous, que la question de la sécurité et donc de la surveillance, ça fait partie des piliers, ça n'est pas, sans doute pas le seul, mais ça fait partie des piliers de ces villes intelligentes.
Merci pour l'invitation d'abord. Je crois qu'aujourd'hui, en 2019, donc à quelques mois de basculer dans une troisième décennie, et on est assez avancé pour mettre en question le mythe de la Smart City en tant que solution technologique pour régler des problèmes d'une grande complexité qui est la qualité des vies urbaines. On est plutôt, je dirais, à discuter aujourd'hui avec vous, Régis et Elodie, sur l'impact de la technologie concernant des approches de gouvernance et de régulation de la vie urbaine. Moi, je fais partie d'une école des pensées, ayant été pionnier dans le développement d'une de toutes premières plateformes numériques pour les villes, ayant participé à la mouvance de Smart Cities, qu'en fait, cette voie est sans issue. Je pense que les principales réalisations à travers le monde, donc qui préconisaient notamment les plateformes de contrôle sécuritaire, ont échoué autour du monde. On le voit très nettement et qu'on a aujourd'hui un relan de technocentrisme qui continue, pour des raisons surtout marketing et business, à considérer que la technologie sera la source de solutions, y compris pour la sécurité, au niveau de la ville, sur des problématiques business. Donc j'appelle juste à ne pas confondre, par rapport aux auditeurs, cette notion de bien vivre en ville, de transformer la vie urbaine, d'avoir de la qualité des vies, d'avoir ce que j'appelle la ville vivante, avec la tendance à massifier les données produites par l'ubiquité, c'est-à-dire la capacité de tous et chacun à disposer des appareils donc, qui émettent beaucoup de données, par la consultation de beaucoup d'offres technologiques, mais en aucun cas, on peut aujourd'hui donner à la Smart City la clé de la solution des problèmes comme la sécurité.
Alors on verra dans un instant si Élodie Lemaire partage votre constat finalement d'un échec de cette course à la surveillance, puisque échec peut-être en tout cas du point de vue de l'efficacité de l'effet recherché. Il faudra d'ailleurs s'interroger sur l'effet qui est recherché justement dans cette différente forme de surveillance, mais vous évoquiez la massification des données, Carlos Moreno. Régis Châtelier, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez constitutif, justement, de ces nouvelles villes. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'énormément de données pour les faire fonctionner. Et c'est peut-être d'ailleurs par là que commence une certaine forme de surveillance.
Oui, c'est vraiment ça. Quand on parle de Smart City, effectivement, le terme... On peut le discuter, mais on parle de données beaucoup et de collecte de données. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce champ de la ville, on a eu tendance finalement à penser que la collecte massive de données et d'un grand nombre de données personnelles, dans une idée qu'on pouvait optimiser la ville et que finalement faire des individus, des formes de pions à téléguider via leur smartphone parce que eux-mêmes étant en position finalement de plus avoir la liberté d'aller et venir. L'idée c'était de se dire, et on a publié un cahier là-dessus en 2017, sur l'idée de finalement, on avait cette vision un petit peu provocante de se dire que avec cette idée de la donnée pourrait produire des solutions, on finit par se dire que finalement le smartphone étant la première source de collecte de données et également de retour vers l'individu, il s'avérait que l'individu, finalement, perdait un petit peu sa capacité à avoir conscience des données qui étaient collectées par tous les capteurs dans la ville, qui sont son smartphone, mais aussi tous les capteurs de la ville, y compris effectivement les caméras, avec cette idée de, que ce soit dans la mobilité, dans les transports ou la surveillance, on puisse finalement faire sans l'individu, et que cet objet ville devenu un corps vivant en tant que tel, on pouvait le contrôler, et que chaque individu finalement était un élément à contrôler, pas uniquement du point de vue de la surveillance, mais dans l'ensemble de ses allées et venues.
Vous en parlez aussi au passé, vous, c'est-à-dire pour vous c'est déjà un échec ?
Moi je me place pas que du point de vue de l'échec, je le place du point de vue aussi de la CNIL et de la réglementation, je parle du RGPD notamment, parce que justement cette vision dont je vous parle, elle va à l'encontre de ce qui est le principe même à la base de la loi informatique et liberté, puis du règlement européen, le règlement général à la protection des données, que finalement on peut collecter des données, on peut traiter des données, mais il faut que ça se fasse en accord avec la personne, dans une forme de transparence, sur les données que l'on collecte et sur les finalités. Et avec toujours respecter les droits des individus à soit donner leur consentement, soit retirer leur consentement, soit également avoir un droit d'accès, de modification. Donc finalement, quand je dis au passé, c'est parce que je pense que chaque acteur dans la ville doit être responsabilisé sur ses obligations vis-à-vis de l'individu au travers du règlement européen pour faire en sorte que justement on puisse produire des services, on puisse lui envoyer des éléments potentiellement pour le guider, à condition d'être dans une forme de transparence où on lui permet de garder le contrôle. Et c'est ça qui est important. Alors, chaque individu.
Une façon de récolter ces données, vous l'avez dit Régis Châtelier, ça peut passer notamment par les caméras de surveillance. Alors allons justement, pénétrons peut-être dans un centre de vidéosurveillance avec vous, Élodie Lemaire. Vous avez donc fait, je le disais, une enquête de terrain dans une ville dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est une ville, non pas une ville fictive, mais enfin en tout cas c'est un nom fictif que vous avez donné pour qu'on puisse pas reconnaître les différents intervenants.
Voilà, Braville.
Régis Châtelier disait, il y a un des problèmes, c'est qu'il faut que ça se fasse avec l'assentiment des gens. Qu'est-ce que l'on peut dire justement là-dessus par rapport aux caméras de vidéosurveillance? Alors, on ne donne pas son accord en général quand on marche dans la rue d'une ville et qu'il y a des caméras, mais en même temps, on sait qu'elles existent. Et est-ce qu'on ne finit pas par les accepter aujourd'hui ?
Voilà, il y a évidemment une forme de banalisation comme ça apparente hein, de la vidéosurveillance, mais finalement dans l'enquête, ce que je montre, c'est qu'il existe quand même un travail social de persuasion pour vaincre les résistances quotidiennes. Donc il y a des acteurs relais hein, qui essaient de justifier au quotidien de l'intérêt de la vidéosurveillance. Donc on voit bien qu'elle n'a pas encore fait ses preuves, et je souscris pleinement aux propos de Monsieur Moreno. J'irai également dans ce sens en posant une question. On dit finalement Smart Cities, on va améliorer la qualité de vie. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi par améliorer ? C'est rendre plus performante, parce que c'est dans un sens particulier. Hein, quand on dit qu'on va mettre la vidéoprotection au service de la production de données, du croisement de données, on voit bien que c'est en lien aussi avec la réforme de l'État en France, hein, qui valorise les notions de performance, d'efficience, et qui donne aux indicateurs chiffrés une place centrale. Donc, dire et partir du postulat que ça améliore, est-ce que c'est pas aussi un moyen d'évacuer la question justement du consentement de la population et d'évacuer le débat démocratique sur le sujet?
Ben moi je vais vous dire peut-être en quoi ça peut améliorer la vie d'un citadin. Si cette plus grande surveillance se traduit par davantage de sécurité, ben moi je vais pouvoir me promener moi ou par exemple mes enfants de manière plus sûre dans la ville, donc je vais davantage en profiter. C'est en tout cas c'est bien ça qui est proposé, qui est vendu quand on dans une ville, on augmente le nombre de caméras de surveillance, on imagine de nouveaux dispositifs. Élodie Lemaire.
Oui, alors là, vous jouez le jeu du probable.
Vous avez bien compris le sens de ma question.
Dans l'hypothèse où tout cela fonctionne. Mais ce qui change quand même, parce que il y a des enjeux derrière, ce qui change avec cette vidéosurveillance dite intelligente, c'est quand même les modalités de la surveillance. C'est-à-dire que là, on nous dit on ne surveille plus pour identifier, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, même si on a des difficultés à le prouver, l'efficacité hein, de dans ce domaine, mais on surveille pour dépister, pour anticiper une anomalie. Donc finalement, on dissocie ici la notion de risque de celle du danger. Et ensuite, ce qui change aussi, c'est finalement la vision de l'usage de la ville, vous voyez, de l'espace public, parce qu'il y aurait un bon usage, un bon comportement à adopter, alors peut-être l'auriez-vous, ce bon comportement, auquel finalement on cherche à conformer la population. Et il me semble que déjà cette vision normative place le corps, hein, au sens de la tenue, l'attitude, au centre du jugement, ce qui là pose encore également plusieurs enjeux. Et enfin, si les technologies là paraissent innovantes, moi je pense que le paradigme, lui, il est beaucoup moins. Je pense par exemple à un article de Robert Castel, écrit dans le début des années 80, hein, de la dangerosité au risque. Je pense aussi à la criminologie du 19e siècle, dresser des portraits de criminels dans un but prédictif. Hein. Je me demande parfois s'il n'y a pas aussi une régression un peu conceptuelle de ce point de vue.
On en est là aujourd'hui, Carlos Moreno, c'est-à-dire ce retour en arrière qu'évoque Élodie Lemaire, ou à travers, alors je pense par exemple, par rapport à ce que vous disiez, aux technologies de reconnaissance faciale, c'est-à-dire on établit presque quoi, des morphotypes de personnes qui seraient criminelles, et on le fait grâce justement à cette technologie, à l'intelligence artificielle, aux algorithmes qui y sont associés.
Oui, tout à fait. Je peux rebondir sur ce que dit Élodie, parce que effectivement, on n'a pas changé vraiment de paradigme. On change en termes de puissance et performance technologique. Mais la question qu'on se pose quand on travaille sur la problématique de la vidéosurveillance en ville, et ça concerne en fait quelle est la perspective de gouvernance qui est établie au sein de la ville.
Oui, mais si vous dites on change en termes de puissance, si c'est plus puissant, ça, c'est censé être aussi plus précis.
C'est pas une question de précision, une fois de plus, c'est une question de outils qui sont mis en place par rapport aux objectifs de ce qu'il y a derrière le mot sécurité. Et pour mieux comprendre mes propos, je vais donner trois exemples différents, des choses qu'ils ont faites en France et des choses qu'ils ont faites à l'étranger. Quand vous comparez par exemple ce qui est fait à Paris, ce qui est fait à Nice, ce qui s'est fait en Chine ou ce qui s'est fait par exemple à Rio de Janeiro, on a trois, à l'occurrence quatre manières différentes d'approcher la problématique. J'ai eu l'occasion de participer à la mise en place donc de première vidéosurveillance urbaine, notamment le cas de Paris, parce que j'ai fourni une plateforme technologique qui a été utilisée pour. Et on est dans un contexte, donc en 2010, dans lequel il y a une très grande fragilité urbaine en particulier produite par des guerres asymétriques et la montée donc du terrorisme, notamment les kamikazes, qui peuvent transformer la situation des villes à tout moment. On l'a vécu, Paris l'a vécu de manière tragique, Nice aussi. Donc, la montée en puissance de la vidéosurveillance vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la gouvernance locale, n'a pas la même stratégie avant ou sans cette guerre asymétrique terroriste. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment, je dirais, d'utilisation de cette vidéosurveillance qui passe par une acceptabilité sociale quand on vient traquer les terroristes.
Oui, ça rassure quand même.
Ça rassure.
Ça rassure et puis et ça permet effectivement de débusquer ces gens-là.
La traque, voilà. Ouais. Par rapport à la traque, vous surveillez, journalistes, quand il y a eu un individu qui a tiré, donc, et je pense que c'était chez Cine TV, chez BFM, à côté de la porte de Saint-Cloud, ensuite chez Libé, et ensuite il a été attrapé. Voilà, on a Mohamed Kera à Toulouse, j'ai vécu cette affaire-là très directement. Donc la traque donc, des actes terroristes ou à Boston lors de la marathon, au travers de la vidéosurveillance, a joué un rôle. La difficulté en termes de gouvernance, c'est quand cette vidéosurveillance va devenir un outil de contrôle social et dans lequel l'espace public est identifié à une manière d'agir dans les cadres de la société. Moi, je suis quelqu'un qui est devenu assez agnostique en termes de la manière comment on considère les caméras en tant que telles. Je considère qu'une partie de cette action, c'est un peu le pharmacon grec, poison ou remède. Tant qu'on n'est pas dans l'obligation sociale ou dans le contrôle social, la notion d'apaisement peut être trouvée. Quand on, par contre, on va vouloir absolument faire la reconnaissance faciale, quand on va contraindre l'individu, quand on va violer les droits élémentaires des protections privées, là, on me trouve sur le chemin de l'opposition à ce type de technologie.
Bon, cela dit, pour le coup, aujourd'hui, Régis Atelier, on n'en est pas là. Enfin, en tout cas, s'agissant de la reconnaissance faciale, il n'y a pas de. Enfin, la loi interdit, hein, je crois, le recours à cette technologie. Il y a une expérimentation à Nice lors du carnaval.
Voilà,
de
c'était
Nice.
Bien une expérimentation. Et c'est justement le cas par rapport à la vidéo, donc la vidéo traditionnelle, il est encadré en France, donc que ce soit les caméras fixes, les caméras, enfin tout type de caméras sans dispositif de reconnaissance, c'est encadré et donc pas via notamment le code de la sécurité intérieure. Et en fait, ce qui est en train de changer maintenant, c'est qu'il y a la volonté aujourd'hui de tester des systèmes de reconnaissance faciale. Jusqu'à présent, ça s'est fait dans le cadre d'expérimentation, donc sur la base du consentement, avec des personnes qui étaient volontaires pour tester. Donc c'était l'expérimentation d'une technologie dans l'espace public.
Avec quel objectif ?
De valider la technologie, mais pas un objectif de sécurité publique directe. Et là où la question se pose, c'est dès lors que justement on va commencer à vouloir utiliser ce type de dispositif pour la sécurité publique. Donc du point de vue légal, effectivement, ça va changer, puisque ça changera, il faudra que ça change, enfin, si ça, il faudra que ce soit discuté en tout cas, parce qu'on n'entre plus dans le cadre du règlement européen et du consentement, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la directive police-justice, qui est une directive qui est là pour réguler finalement toutes les, on va dire, tout le pan régalien de la collecte du traitement des données, pour faire simple, et notamment le cas des caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection.
Et juste petite parenthèse, est-ce qu'il y a des projets législatifs qui sont aujourd'hui réfléchis, imaginés pour justement permettre, en tout cas, mieux réguler ces nouveaux outils ou...
Directement sur le cas de la reconnaissance faciale, on n'est pas connaissance. Par contre, ce qui est important, c'est que ça ait lieu, puisque, enfin, au moins pour le définir, parce qu'on sent bien qu'il y a une digue qui est en train de, il y a une volonté, et effectivement, c'est politiquement, ça peut être utilisé par certains. Et il s'agit justement pour la CNIL avait appelé en septembre 2018 à la tenue d'un débat démocratique autour de ces questions, parce que justement, on est dans des questions qui sont pas juste juste juridique, mais il faudrait vraiment qu'on se pose les questions tous ensemble, donc pas uniquement les personnes qui traitent de ces questions, d'un débat démocratique justement sur les encadrements, parce que justement on entre dans un nouveau cadre effectivement, qui est le prédictif, qui comporte des biais et des risques qui sont beaucoup plus importants que le simple fait, si j'ose dire, d'être filmé sans conséquences directes si on n'a pas directement fait quelque chose.
On va revenir dans un instant sur ces biais, mais j'aimerais savoir, Élodie Lemaire, donc vous qui avez côtoyé notamment des agents de vidéoprotection, je ne sais pas si c'est comme
des
ça...
Vidéo opérateurs,
qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous racontent de leur mission ? C'est-à-dire à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils le formulent? Est-ce qu'ils font justement de la prévention? Est-ce qu'ils sont là pour être aux aguets s'il y a un, je sais pas, un délit qui est commis et pour pouvoir permettre à la police d'intervenir le plus vite possible? Ou est-ce que c'est un mélange des deux peut-être?
Alors justement, c'est le problème, ils ne savent pas précisément à quoi ils servent. Ils ne savent pas non plus précisément à quoi sert la vidéosurveillance. Donc ils ont vu dans mon enquête un moyen d'établir eh bien l'efficacité et puis les usages réels de l'outil qu'ils manipulent au quotidien. Alors simplement pour rebondir sur ce que vous avez dit avant sur le rôle de la vidéosurveillance dans la lutte contre le terrorisme, je pense par exemple à un travail d'Eric Hellman, qui rappelle que les attentats, par exemple, de Londres de 99, hein, ont nécessité 1100 vidéos, je crois, à peu près 25 000 heures de visionnage, et puis une cinquantaine d'agents. Voilà la configuration hein, qui permet à un moment donné de rendre la vidéo efficace dans le domaine de la sécurité, dont on imagine bien que ça peut pas se passer comme cela au quotidien. Et j'ajouterai également qu'il me semble qu'on ne s'est pas donné en fait les moyens sociaux, nos ambitions technologique. Et là, j'en veux pour preuve ces nouveaux métiers hein, de la vidéosurveillance qui sont occupés par des agents qui ne sont que très peu qualifiés, peu formés, qui ont des conditions de travail précaires. Et finalement, qu'ils s'investissent ou non dans ce travail, ils ne sont pas vraiment reconnus comme de vrais professionnels.
Mais Élodie Lemaire, est-ce que les sauts technologiques qu'on constate quand même hein, ces dernières années en matière de surveillance ne permettent pas, malgré tout, de faire le constat d'une meilleure efficacité dans la prévention et dans la sécurité?
Pour l'instant, on n'est pas en moyen de prouver l'efficacité dans ce domaine. Premièrement, concernant la dissuasion, hein, l'effet dissuasif, on n'a pas construit d'indicateurs qui permettent de le vérifier. Et puis, sur l'aspect répressif, c'est aussi un des enjeux de mon ouvrage, on voit que la contribution judiciaire de la vidéosurveillance est réelle, mais pour l'instant très limitée.
C'est donc qu'il y a aussi une dimension de contrôle social que vous évoquiez, Carlos Moreno. Je vous redonne la parole dans un instant, mais Régis Châtelier, je sais que vous vous êtes intéressé notamment au cas de la Chine, qui est un exemple. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un exemple enviable pour nos sociétés, mais c'est peut-être ce qui va nous arriver. Où là, alors il y a eu déjà pas mal de reportages d'ailleurs qui ont été faits, mais le contrôle social à travers la vidéosurveillance est très poussé. Ça peut prendre quelle forme ?
Il faut bien comprendre qu'en Chine, la collecte de données est massive et finalement, il n'y a pas de porosité. Enfin, il n'y a pas d'effet de silo entre les différents collecteurs de données. Et en fait, ce qui fait qu'au final, en Chine, il y a des gabarits biométriques des individus, c'est-à-dire la gabarit biométrique, c'est-à-dire l'espacement entre les yeux, les coins de la bouche, le nez, qui forment finalement une espèce de signature de chaque personne. Et il y a des bases de données qui correspondent aux bases de données des citoyens et qui sont utilisés parfois dans la rue, qui sont collectés par exemple sur les réseaux sociaux. Et il y a cet exemple dont on parle assez souvent, c'est l'exemple de name and shame, donc citer et la honte, enfin pour faire honte, où il y a dans certaines villes en Chine, on utilise la reconnaissance faciale au feu pour que lorsqu'une personne traverse, alors que c'est pas à son tour de traverser, sur un panneau derrière, s'affiche son nom et sa photo. Elle va également recevoir une petite amende. Mais l'effet est de dire, on va jeter en pâture le nom et la photo de la personne pour dire à la société que cette personne a traversé en dehors des clous. Donc c'est un exemple qui est assez perturbant parce que ça peut faire presque sourire, mais c'est extrêmement violent par rapport aux formes de contrôle social, effectivement. Et on voit bien que là où c'est intéressant de voir ça, c'est que c'est le champ des possibles, en fait. C'est qu'à partir du moment où on a une base de données des gabarits biométriques de chaque individu, potentiellement, si on ne se limite pas et si on ne freine pas sur les usages et les finalités, on peut potentiellement aller un peu dans tous les sens. Un autre exemple, cette semaine, il y a eu un article, peut-être la semaine dernière, qui est sorti dans le New York Times, je crois, où on commence à y avoir recours pour repérer les populations ouïghours. Donc, pour stigmatiser directement un pan de la population pour les surveiller et mener une surveillance plus rapprochée de cette population. Et donc, on sent qu'il y a une espèce d'inflation et de course à toujours plus en Chine sur la base de cette reconnaissance faciale parce que, encore une fois, au moment de la collecte et du fait d'avoir créé ce type de base de données, le fait que finalement l'État ait plein pouvoir dessus et qu'il n'y ait pas de contrôle et de régulation, on peut arriver à des choses qui peuvent venir extrêmement violentes.
Carlos Moreno ?
J'ai une petite nuance par rapport à ce qu'est dit Élodie, parce que on peut pas être neutre sur le fait que à 30 ans, la technologie, effectivement, a fait des sauts extrêmement importants et en termes de nouvelles voies concernant la manière comme les données sont traitées. Rien que le temps de calcul est aujourd'hui extraordinaire. En quelques millisecondes, on est capable donc de gérer des masses de données dont il y a 30 ans, on était incapable même de l'imaginer. Donc je pense que c'est pas neutre aujourd'hui, l'impact technologique sur le fait que les croisements des données, en particulier celles issues de la surveillance, amènent des nouvelles contraintes. Donc mais la question sur laquelle je me bats, c'est de dire, en dehors du contrôle social, quel est le contrat social qui est établi? Est-ce que dit Régis par rapport à la Chine, c'est clair et net, il n'y a pas de contrat social. C'est top-down, c'est le parti, c'est l'Assemblée populaire. Une fois qu'elle s'est décidée, ça touche 1 milliard, 300 millions de personnes, point barre. Et si la personne n'a pas passé par les bons zèbres, s'il a perdu X points de qualité sociale, et son prochain crédit, il ne l'aura pas. Ensuite, quand on revient sur des pays comme la France, dans lesquels on a la chance d'avoir la CNIL, on a parlé tout à l'heure, des régulations, des pays des droits de l'homme, on a quand même, on peut saisir le CNIL quand on veut. Et il se pose la question de l'usage de ces technologies, qui elles évoluent, mais sur lesquelles les débats est aujourd'hui excentré. C'est-à-dire qu'on ne discute pas. Et ça, je suis avec Elodie, sur l'efficacité. Moi, je maintiens que cette efficacité, a priori, elle est douteuse, et que cette efficacité, elle joue un rôle a posteriori. Quand on doit traquer, c'est un élément utile. Mais moi, ce qui me désole sur le débat de la vidéosurveillance, quand je vois en plus la France dériver vers les populismes, l'autoritarisme, le racisme, la xénophobie de manière assez nette, c'est comment ces discours d'une technologie qui évolue, en absence d'un contrat social, devient en fait une pièce des musiques plutôt de mauvais goût dans la course électorale pour s'imposer auprès des citoyens sur des projets pour lesquels ça sera une infime partie finalement de ce qui va se passer en ville.
Mais c'est peut-être parce qu'il y a une large acceptation aussi de ces technologies, Carlos Mohan. Regardez, quand on a sur soi, comme le disait tout à l'heure Régis Châtelier, son smartphone avec énormément de données et donc qu'on peut être très facilement repéré dans nos déplacements dans la ville, quand on navigue sur Internet, on sait bien qu'on laisse énormément de traces, qu'on laisse énormément de données personnelles. On est un peu, c'est une forme, il y a quand même une forme d'asservissement volontaire qui fait que peut-être que la vidéosurveillance, eh bien, elle est plus largement acceptée qu'on ne l'imagine.
Il y a deux aspects différents et vous avez tout à fait raison de le souligner. Je l'ai dit dans beaucoup de mes cours à mes élèves et en conférence ou à mes partenaires. La principale source des captages de données, c'est l'action individuelle aujourd'hui, puisque les gens, ils cliquent leur condition d'acceptation. On demanderait aux gens de cliquer sur des choses dans lesquelles c'est marqué au bout de la 15e page, vous engagez à diffuser Mein Kampf tous les vendredis matins de 8h à 10h. Les gens signent parce que personne ne les lit. Donc aujourd'hui, on est face à quelque chose d'extrêmement grave. C'est que personne aujourd'hui est en capacité dire non, puisqu'il y a des actes qui sont devenus mécaniques dès la vie de tous les jours, acheter, lire, accéder à une source d'information pour laquelle on doit cliquer sur des choses. Ça, c'est un aspect qui ne concerne pas la ville, puisque c'est l'individu qui donne ses données gratuitement, des Facebook, avec Amazon, avec etc. Par contre, moi, ce que j'ai critique, c'est que les comportementalismes de ce que j'appelle donc les aspirants à la gouvernance prêtent un très mauvais service quand ils renchérissent sur l'utilisation de la vidéosurveillance et a priori. Vous avez vu à Paris dimanche dernier un candidat à la candidature de la mairie de Paris en disant pour la sécurité, je vais installer 240 drones en dessus de la ville de Paris, quadrillés en 20 secteurs et avec 8 personnes par secteur, plus des boutons bleus pour rappeler à tout instant. Ces types de discours sont dramatiques, sont malheureux et créent une ambiance sur les technologies dystopique dont on peut s'en passer aujourd'hui.
Voilà, ce candidat à la mairie de Paris, c'est Mounir Majoubi, qui est l'ancien secrétaire d'État au numérique et l'ancien président du Conseil national du numérique, qui s'y connaît en numérique. Et c'est vrai que ses propositions sont plutôt surprenantes, étant donné son profil. Élodie Le Maire, peut-être que ce qui peut être rassurant, à moins que ce soit l'inverse, c'est que malgré tout, même si la technologie avance, même si l'intelligence artificielle fait énormément de progrès, c'est toujours l'humain qui, en dernier ressort, est appelé à juger, à évaluer les informations, les données qui lui sont offertes. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup de votre livre, L'œil sécuritaire. C'est que, évidemment, l'aspect subjectif est très important. Et aussi le fait que ces données-là et leur analyse, ça donne lieu à des enjeux de pouvoir qui fait que on n'est peut-être pas dans une société aussi avancée vers Big Brother qu'on pourrait le craindre.
Oui, en effet. Pour aller dans le sens de ce qui a été dit avant, je ne remets pas en question ce bond technologique, mais plutôt je pose peut-être une nuance, vous voyez, qui consiste à remettre en question la prétendue autonomie de ces dispositifs intelligents, par exemple, qui pourraient, vous voyez, se passer de l'œil humain. Finalement, mon enquête montre que la vidéosurveillance, elle est très peu autonome. Il s'agit avant tout d'une activité humaine. Elle dépend de celui ou celle qui la produit, qui l'utilise, et ça suppose toujours d'activer des savoirs voir, des savoirs reconnaître, de savoir convaincre.
Donc, mais on ne sait pas s'il faut s'en réjouir ou pas, finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se réjouir de cette faible, enfin en tout cas pas totale autonomie de la machine, est-ce qu'il faut s'en inquiéter parce que du coup, c'est l'arbitraire humain qui, derrière, peut prendre des décisions qui peuvent être dangereuses.
Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais en tout cas, il me semble que la vidéosurveillance intelligente sera également indissociable de ces dynamiques d'appropriation. La question qui me semble importante, c'est aussi par qui et comment, par exemple, sera défini, vous voyez, les comportements suspects censés être dépistés par les dispositifs intelligents.
Dans ce que vous avez observé, justement, comment est-ce que ça se décide?
Alors, pas pour les dispositifs, pas la vidéosurveillance dite intelligente, mais je pense que là, ça décale un petit peu l'enjeu avec la vidéosurveillance dite intelligente, puisque qui finalement va retrouver un peu de pouvoir. On le voit aujourd'hui, c'est pas les vidéo-opérateurs, mais ça va être celui qui va programmer, qui va planifier. Et que vont devenir les opérateurs de terrain, les hommes et les femmes de terrain qui, eux, sont contact réel en chair et en os, vous voyez, parce que finalement, si ces logiciels qui repèrent les problèmes se mettent vraiment en place, mais que devient le rôle, par exemple, des policiers? Est-ce que c'est celui d'un exécutant de cette machine? Que devient le rôle des magistrats si les faits n'ont plus besoin d'être établis parce qu'ils sont détectés avant qu'ils n'adviennent? Voilà, ma question est celle-ci. Par qui et comment sera défini le comportement suspect censé être dépisté?
Régis Châtelier.
Et c'est là aussi bien d'intéressant de voir justement la translation depuis la vidéo surveillance à la vidéo intelligente, ce qu'on appelle intelligente, qui est justement basée sur l'intelligence artificielle. Et c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'on a tendance à oublier effectivement, c'est qu'il y a toujours de l'humain sur l'ensemble de la chaîne. Et malgré cela, on nous vend l'intelligence artificielle comme étant du machine learning, donc de l'apprentissage automatique par les machines, sur lesquelles finalement la machine deviendrait plus intelligente que l'humain. Et on n'aurait pas la capacité à avoir du recul sur la prise de décision. Et c'est là où justement il faut être très très vigilant. Et on avait publié justement cette notion d'intelligence artificielle, c'est qu'au contraire, on parle plus d'une... Il n'y a pas de disparition de la responsabilité, mais il y a une chaîne de responsabilité qui va dans le choix en entrée des données qu'on va choisir pour entraîner nos algorithmes, la manière dont on va les qualifier. Et en fait, finalement, on parlait à la CNIL justement d'un principe de vigilance sur l'ensemble de la chaîne. Et justement, il faut faire très attention avec ce type de dispositif vidéo ou autre, dès lors que c'est de l'intelligence artificielle, à préserver le contrôle humain sur l'ensemble de la chaîne de production, j'ai envie de dire, parce que il est très très dangereux d'être dans du techno-solutionnisme, parce qu'on risque justement de perdre la main et de générer des dégâts qui peuvent être importants pour chaque individu ou des pans de la population.
Vous évoquiez tout à l'heure, Régis Châtelier, le risque de certains biais, notamment, si j'ai bien compris, au niveau justement de la conception,
oui.
Par exemple de ces logiciels qui permettent la reconnaissance faciale, ou aujourd'hui l'audio-surveillance, enfin je dis aujourd'hui, ça existe peut-être d'ailleurs depuis longtemps, mais j'évoquais cette expérimentation à Saint-Étienne. Je ne sais pas si elle a commencé ou si elle commence d'ici quelques jours, où l'idée c'est de repérer des bruits suspects. On nous dit qu'on n'enregistrera pas les conversations, mais ce sont simplement des bruits suspects, par bruit d'explosion qui pourraient être repérés. Les biais, ça peut être quoi et à quel moment?
Alors, les biais sur la partie son, j'ai pas d'exemple en particulier.
Alors sur la reconnaissance faciale.
Il peut y avoir. Enfin, le biais déjà, c'est le biais de la reconnaissance elle-même, parce que souvent les bases d'entraînement étaient des personnes plutôt de type caucasien et certains types de populations. Donc, la reconnaissance fonctionne beaucoup moins bien pour des populations d'autres origines. Et aussi, le biais, il est plus dans la production de solutions. Si je prends le parallèle avec la justice prédictive, notamment, et avec un algorithme qui avait été testé justement pour évaluer le taux de récidive probable des individus, où on se rendait compte que c'est pour alimenter cet algorithme, on avait repris tous les anciens cas aux États-Unis, pour alimenter en données l'algorithme qui lui-même redéfinissait sur la base d'une image un taux de récidive possible. Et on se rendait compte que entre deux cas, deux personnes différentes, dont l'une a le casier judiciaire très chargé et l'autre peu, et que la personne qui a le casier judiciaire peu chargé soit plutôt justement de type caucasien et l'autre afro-américaine, à chaque fois l'algorithme va toujours dire que c'est la personne afro-américaine qui a un risque de récidive très très important. Et donc c'est là où on voit, et c'est de la même manière sur d'autres types de populations, quand on voit qu'on commence à vouloir repérer les Ouïghours, on va peut-être potentiellement plus les surveiller aussi. Donc s'il y a un taux de criminalité chez Ouïghours qui est équivalent au reste de la population, comme on les surveille plus, potentiellement, on va plus les voir. Donc c'est à tous les niveaux en fait, où ça pose des questions justement sur les biais qu'on peut importer dans ces technologies.
Du coup, Carlos Moreno, comment est-ce que vous répondriez à la question du soir? Pourra-t-on échapper à la surveillance des smart cities?
Je pense que les smart cities, ce n'est pas du tout et tout simplement un catalogue de technologies qui sont mises en place dans une ville pour jouer un rôle de contrôle social. Ce que je défends comme voie, c'est les smart cities car humaines, c'est-à-dire qu'on privilégie la qualité des vies, qu'on développe de la technologie pour permettre aux citoyens de s'épanouir, d'accéder à l'éducation, d'accéder à la culture, d'accéder au travail, d'accéder à la santé, et que donc cette approche technologique soit un outil, un support, une aide pour retrouver cette amélioration de la manière comme on accède aux fonctions sociales urbaines. Et moi, je pense qu'il faut échapper à une vision, non seulement pour la surveillance, mais pour toutes les actions de la ville, d'une technologie omniprésente qui nous dicte nos conduites. Je pense que les gouvernances locales doivent être attentives et que les citoyens doivent exercer leur droit à vivre avant tout dans une ville donc vivante, dans une ville qui soit durable. On n'a pas parlé d'écologie, on n'a pas parlé de changement climatique, mais pendant qu'on surveille les gens, notre planète est en train d'égriller et qu'on n'a plus s'interroger de laquelle les technologies sont utilisées pour rafraîchir la vie et rafraîchir la ville et pour limiter la montée des températures à 1,5 degré, parce qu'on pourra avoir les bases de données qu'on veut des citoyens, mais si on est tous à 3 degrés ou à 4 degrés ou à 5 degrés, il y aura plus grand-chose à la fin sur la planète. Et par contre, cette technologie, laissons-la donc sous le contrôle des humains, et c'est les humains qui auront le dernier mot. Il n'y a pas de biosurveillance intelligente, l'intelligence c'est les humains, le reste ce sont des outils.
Élodie Lemaire, une toute dernière question. Vous qui avez fréquenté longuement pour votre enquête ce monde de la vidéosurveillance, qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement, c'est-à-dire dans votre usage de la ville? Je rappelle, vous êtes enseignante à Amiens. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de vidéosurveillance dans cette ville, mais enfin bon, je pense que la plupart des grandes villes françaises y ont recours. Est-ce que vous vous déplacez différemment? Est-ce que vous êtes plus attentif peut-être aux endroits où vous pouvez être surveillé?
Écoutez, pas forcément. Je sais peut-être plus facilement repérer les lieux d'implantation des caméras pour les avoir aussi manipulés et imaginer un peu les lieux où elles peuvent être disposées. Mais finalement, c'est aussi le pouvoir de cette technologie, c'est d'être invisible en étant visible. Vous voyez, au bout d'un moment, on tente à l'oublier. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, il me semble qu'on ne pourra pas échapper à ce nouvel ordre urbain qui est aussi, il me semble, un nouvel ordre social. Et simplement pour citer Robert Castel, il me semble intéressant de réfléchir peut-être à la fin de la notion de sujet ou d'individu concret qui serait, comme il le dit, à remplacer par une combinatoire construite de facteurs de risque.
Et bien c'est sur cette phrase de Robert Castel que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Élodie Lemaire, Régis Châtelier et Carlos Moreno d'avoir participé à cette
discussion. Je rappelle, L'œil sécuritaire, mythes et réalités de la vidéosurveillance, c'est votre livre, Élodie Lemaire, publié aux éditions La Découverte. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Amélie Perrault, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Pierre Léogras, avec à la prise de son Jean-Frédéric Sissi à Paris et nos camarades de France Bleu Picardie à Amiens. Dans un instant, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte.
Absolument, et comme le réchauffement climatique a frappé le sud-ouest, je me suis permis d'ouvrir la fenêtre, hein, tant qu'on en a une. Mon cher Hervé, on va parler de littérature et vous parlerez de quoi demain ?
De conflictualité sociale, est-ce que c'est la stratégie du chaos ? Club des idées du Grain, à 18h20 demain.